achevé certains thèmes de la troisième génération des Avot, et nous avons vu comment finalement le nom d'Israël est donné à Jacob et pas à Ésaü. C'était bien ça qu'on a fait la dernière fois. Okay. Et alors, bien entendu, la Torah nous avertit déjà que il s'agit d'un événement irréversible. À partir du moment où Jacob devient Israël, c'est irréversible. Et le problème d'Ésaü, on a fait allusion brièvement. Si ça vous intéresse, on peut le reprendre. Enfin, pour résumer ce qu'on avait posé comme problème à ce sujet, c'est que l'identité Ésaü, en tant qu'entité collective, n'a pas d'avenir. À la fin des temps, quand ce sera le Malchut HaMashiach, Esav disparaît. Vous avez relié ça au problème des Malchuyot. Après les trois grands Malchuyot, le dernier étant celui de Rome, c'est-à-dire de Esav, c'est le Malchut du Mashiach. Et là, Esav disparaît. Mais qu'à l'échelle individuelle, il peut y avoir Tshuva d'Ebnei Esav. Et ça veut dire qu'ils deviennent Israël, mais que la notion de Esav tzadik n'existe pas dans les sources, alors que la notion d'Ishmaël tzadik est possible. C'est un autre problème. Là, je crois grosso modo qu'on peut résumer cela. Et alors, seulement, la Torah nous avertit, et je vous demande la référence si vous avez une demande de Rachot. Est-ce qu'il y a une demande de Rachot ici, cher? C'est que l'événement où Yaakov Avinu devient Israël est un événement préfiguratif de la fin des temps. C'est quand Israël est reconnu comme Amlechet Kohanim et Goy Kadosh par l'univers tout entier, mais ça doit commencer par une reconnaissance de Esav qui nous est racontée lorsque le tsar de Esav donne le nom d'Israël à Jacob. Retenez bien cela. Mais que l'identité Jacob ne disparaît pas pour autant. On peut retrouver l'identité Jacob, bien que c'est Jacob qui soit devenu déjà Israël. C'est un grand problème de lecture dans les textes. Parfois, vous avez dans le même verset le nom de Israël et le nom de Jacob. C'est-à-dire qu'on peut revenir au niveau Jacob. Alors, une des clés de cette différence, la plus générale, c'est que quand Israël est en galoute, il s'appelle de nouveau Jacob. Alors, si vous voulez, bien que, avant de voir la suite, ce qui se passe après la troisième génération, bien qu'il me semble avoir fait allusion à ce verset déjà une fois dans l'année, sinon c'est que c'était l'année dernière, ou l'année d'avant, mais ou l'année prochaine. On va prendre ce verset-là qui indique que, bien que Jacob soit devenu Israël, il y a certaines circonstances où nous retrouvons le niveau Jacob. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit descendre au niveau Jacob, mais on retrouve le niveau Jacob, et en particulier, c'est quand Israël retrouve la situation de galoute. Alors, quelques principes généraux sur la plupart des sources, et nous allons étudier un verset à ce sujet. C'est que Jacob ne reçoit le nom d'Israël que quand il revient de sa propre histoire de galoute chez Laban. C'est clair. Hein? Et puis, lorsque il va descendre en Égypte pour rejoindre Joseph, alors il retrouve le nom de Jacob. Ça va, nous allons voir peut-être deux versets. Alors, mais je pense que c'est la première référence, c'est dans la paracha de Vaïkas, je crois. Oui, une minute. Prenez au chapitre 46, au début. Non, ça c'est Bechorot, c'est pas vrai. Bon, sinon je vous donnerai la référence de mémoire. Ça fait rien, je vous le dirai de mémoire. Il faut jamais faire ça, mais enfin, ça peut arriver. Israël peut devenir la mémoire en nous. Alors, je vous lis le texte. On est donc au chapitre 46, dès le début. Lorsque Jacob a appris que Joseph était vivant et que Joseph l'appelle, alors il décide de rejoindre Joseph en Égypte, mais il a des scrupules. Nous allons voir pourquoi. Est-ce qu'il a le droit de redescendre en galoute, même pour rejoindre Joseph? Alors prenez en tout cas le verset 25, juste le verset d'avant, le verset 25 du chapitre 45. Si vous y êtes déjà, je lis « Vayomer Israël ». Regardez bien, « Vayomer Israël »« Rav od Yosef ben Yechai, Elecha ve'erenu betere mamut ». Et donc, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Joseph a réussi à attirer toute l'identité d'Israël chez lui, en Égypte, c'est-à-dire de rejoindre sa propre tentative messianique, dont je commencerai à parler tout à l'heure. Pour être certain qu'il n'y a pas de réticence de la part de ses frères de rejoindre son propre projet de la suite de l'histoire d'Israël, que je vais définir tout à l'heure, alors il attire Benjamin. Et vous avez lu toute cette stratégie par laquelle Joseph, avant de se faire reconnaître ni à ses frères ni à son père, s'arrange pour faire que Benjamin le rejoigne. Et alors au niveau le plus superficiel, disons, enfin, qu'il n'y a rien de superficiel dans ses problèmes, c'est l'amour particulier qu'il a pour le fils de sa mère, pour son frère qui est le fils de sa mère. Les autres sont les fils de son père, mais pas de sa mère. Donc il y a tout un niveau de lecture pour indiquer la capacité d'amour de Joseph par rapport à Binyamin. Il y a énormément de sources à ce sujet, et ce niveau est clair. Mais en fait, Benjamin a une identité très importante dans l'histoire des Toladot, dans l'histoire des engendrements. C'est Benjamin est la dernière chance de l'histoire d'Israël. Là où se trouve Benjamin, l'histoire d'Israël passe. Alors, une petite analyse très brève, je ne sais si elle est suffisamment claire. Dans cet épisode historique, et étant donné que Joseph a réussi à attirer Benjamin, et comme le texte l'indique, « Nafsho Kshura Benafsho », le nefesh de Yaakov et le nefesh de Binyamin sont attachés l'un à l'autre. Je reprends la formule de tout à l'heure. Là où est Benjamin, passe l'avenir d'Israël. Et alors, il y a une protection particulière de Jacob sur Benjamin, d'autant plus que Jacob est censé croire que Joseph a disparu et qu'il ne lui reste comme descendance de Rachel que Benjamin. Et par conséquent, en aucun cas, il voudra se séparer de lui. Ça vous expliquera pourquoi il y a une telle difficulté pour Joseph d'obtenir que Benjamin descende, et il ne l'obtiendra que quand les frères, c'est-à-dire les enfants de Léa, interviennent auprès de Jacob pour que Benjamin descende. C'est-à-dire qu'on sent que les frères de Joseph, qui sont contre la galoute, sont d'accord à ce moment-là de rejoindre Joseph en galoute. Tout ça, ça va s'éclairer plus tout à l'heure, mais je vous rappelle d'abord le... Et voilà donc, à ce niveau historique, Benjamin est en Égypte avec Joseph, alors tout Israël est en Égypte. Par la suite, lorsqu'il y aura le schisme, après le temps du roi Salomon, j'espère que c'est suffisamment clair historiquement, et que Israël se divise en deux parties, la descendance de Joseph prenant la tête du royaume du nord avec Ephraïm, et Juda, le royaume du sud, Benjamin est avec Juda. Et alors là, l'avenir d'Israël passe par Juda et pas par Joseph. C'est clair? Donc, et je crois qu'on pourrait ajouter un troisième éclairage de notre temps. Il faudrait une analyse beaucoup plus longue, mais je vous dis, le principe, vous me direz si ça suffit. Il semble bien que de notre temps, il y a la même problématique. Où passe l'avenir d'Israël? Nous qui sommes en Israël, enfin, pour nous, c'est irréversible, ça passe par Israël et pas par la diaspora. Mais enfin, la problématique est, objectivement, elle est générale dans le peuple juif aujourd'hui. Il y a surtout chez les gens de diaspora, et une partie des gens d'Israël, d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de juifs en Israël, et ça passe par là. Et c'est pas une blague, les Israéliens sont d'origine juive. Mais il y a des juifs dans les ghettos israéliens. Et quand je dis juif, il ne s'agit pas de l'identité des valeurs juives, ça c'est l'hébraïsme traduit dans une langue juive de l'exil. Je parle du statut socio-historico-politique. Il y a des juifs qui habitent en Israël, mais qui ne se considèrent pas du tout comme israéliens. C'est à ça que je faisais allusion. Enfin, d'une façon générale, dans la diaspora, il y a une grande perplexité. Par où passe l'avenir d'Israël? Est-ce par le rêve israélien? Est-ce par le cauchemar de la galoute? Enfin, c'est la problématique contemporaine. Or, il semble bien qu'il y a un phénomène dans la société juive qui montre que la jeunesse du peuple d'Israël a choisi, c'est-à-dire Benjamin, a choisi Israël et pas la diaspora. C'est-à-dire tous les mouvements de jeunesse. D'abord, il faut savoir que le sionisme est un phénomène qui est apparu des mouvements de jeunesse juifs. D'ailleurs, cet État, l'État juif, a été créé par des moniteurs de mouvements de jeunesse. Et ça se ressent encore, je dois vous dire. Et je parle du siècle précédent. Et probablement, il n'aurait pas été créé autrement. Mais dans tous les mouvements de jeunesse juifs du monde entier, le folklore, c'est un folklore bleu et blanc, comme j'ai l'habitude de dire. Et vous rentrez dans un mouvement de jeunesse, quel qu'il soit, si on décore les cachettes, en hébreu c'est plus noble que décorer, je ne parle pas du local, mais enfin l'endroit, alors on le décore aux couleurs israéliennes. Ça semble être spontané, instinctif. Il y a une atmosphère Hanouka dans tous les locaux de mouvement de jeunesse, quel qu'il soit. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Okay, alors ça veut dire qu'il y a une sorte de Netia, de Benjamin, alors là je parle français, du Benjamin d'Israël, d'avoir choisi Judas et non pas Joseph de notre temps. Pour moi, ça me paraît extrêmement clair. Il faudrait que les sociologues et les historiens fassent une analyse au microscope du phénomène, mais c'est indéniable et irréversible. C'est-à-dire, on va donc trois épisodes au moins, et je pense qu'il faut indiquer le fait de Hanouka lui-même, c'est que à cette époque aussi, Israël a été sauvé dans l'ordre de Judas. Je ne crois pas que ce soit qu'une coïncidence que le héros des Maccabées, c'est Judas Maccabée. Et il y a beaucoup de Mahamarim, des rabbins, des Hachmé Israël, parce que si je dis rabbin en français, il faudrait expliquer pendant une heure de quel genre de rabbin il s'agit, qui montre cela qu'il y a un phénomène qui est du même ordre, c'est-à-dire que c'est le relais que Judas prend quand la tentative Joseph s'avère comme étant un échec. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Alors, vous reprendrez les psukim concernant la naissance de Binyamin, et vous étudierez en particulier ce que Rashi cite des Midrashim sur la naissance de Binyamin, et on voit qu'il y a là un thème très important qui est enseigné, c'est la génération de la fin des temps de l'exil, s'appelle Binyamin. Elle est conçue dans l'exil, et elle naît en Israël, du dedans des plus grands bouleversements possibles, la mort de Rachel, c'est-à-dire la fin de la matrice d'Israël de l'exil, et c'est la plus grande force d'Israël qui apparaît à ce moment-là, et qui s'appelle Binyamin. On ne peut pas ne pas diagnostiquer ça de notre temps, une génération qui a opté pour Judas et mettre fin à la tentative Joseph. Ça s'appelle de notre temps le sionisme. Voilà ce que je voulais dire très grossement. Alors voilà donc le sujet tel que nous avons dans le texte, premier verset du chapitre 46, « Vaïssa Israël v'cholacharim ». Et Israël entreprit de voyager, « Vaïssa », c'est toujours très difficile à traduire en français, ça ne veut pas dire « décampa », d'après le dictionnaire, ça veut dire « à lever le camp okay? »,« Vaïssa ». Bon. Et tout ce qui lui appartient. Alors je vais relier cela à ce que je viens de dire tout à l'heure. Joseph veut être assuré qu'il n'y a aucune réticence, que tout le potentiel Israël rejoint sa propre vision des choses, dont je parlerai plus précisément maintenant. Vayavo Be'erashava. Il arrive à Beersheva. Vaizvach Zevachim. Il offre des sacrifices. L'éloqué Abib Yitzhak, au dieu de son père Yitzhak. Pourquoi? Eh bien parce que, je vais les Rashi et les Midrashim à ce sujet, Isaac a eu la tentation, lorsqu'il s'est aperçu que Ésaü était disqualifié, Isaac lui-même a eu précédemment la tentation de recommencer l'histoire de la mutation fin d'exil Israël, telle qu'Abraham l'avait commencé. J'explique un peu rapidement, mais j'espère que ce sera suffisamment clair. On peut expliquer ça de cette manière. C'est que Isaac a eu, j'ai dit la tentation, c'est pas la tentation, il a eu peut-être le scrupule de se dire, Esav est disqualifié, il faut recommencer, alors de redescendre en exil. Et il est arrêté à Beersheba, Yitzhak, par une révélation de Dieu qui lui dit, toi, tu ne sors pas du pays. C'est clair, vous reverrez le texte, vous rappelez ou je viens de la référence. Okay? Pourquoi vous du commencement de l'histoire telle que nous est racontée avec Abraham? Abraham sort de la galoute et commence l'histoire d'Israël dans son principe. Elle se dévoile avec Jacob, qui se nomme Israël, de se débarrasser de la clipa de l'identité de l'hébreu de l'exil qui s'appelle Aram pour engendrer l'identité d'Israël, de l'origine. Et par conséquent, il y a toute une histoire de bérour, de tri d'identité dans la famille d'Abraham qui nous a raconté dans tout le livre de Bereshit. Vous avez dû remarquer que ça concerne que quelques personnages d'une seule famille. Où, finalement, ce bérour, comment l'identité ivrite, hébraïque, va réémerger de l'identité araméenne. L'identité originelle d'Israël, la préhistoire d'Israël, c'est l'identité araméenne, c'est-à-dire ce qui était devenu l'identité hébraïque d'avant dans l'exil. Alors, pour réussir ce bérour, il faut recommencer de là où a commencé Abraham. Ce n'est pas par hasard que le texte nous prend le récit à la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim. Tout ce qui est passé avant, c'est la préhistoire. Il n'y a que le Midrash qui nous donne des indications, en nous les montrant dans le texte, bien sûr. Mais l'objet du texte, ce n'est pas de raconter cette préhistoire. C'est de raconter l'effort d'engendrement de l'identité d'Israël à partir de Avram à Ivri. Et Avram, c'était son nom araméen, mais on l'appelle l'hébreu. Voilà, c'est clair. Alors donc, très rapidement, Isaac a eu la tentation scrupule, disons, de redescendre en Égypte. Dieu l'arrête à la frontière. Isaac s'appelle Olat Emima. Je ne sais pas si vous avez appris ces définitions, prenez-les. Abraham, dans la Gemara, Abraham est appelé Techila la Guérim. Yitzhak, Olat Mima, et Yaakov, Mitato Shlem. Et vous voyez comment le traduit. Abraham, c'est le commencement, il faut traduire des convertis parce qu'on parle français, mais des naturalisés hébreux, okay, qui retrouvent leur nature d'hébreu. Et Yitzhak, c'est Olat Mima, le sacrifice parfait, okay, et il n'est jamais sorti d'Eret Israël. Et puis, Yaakov Mitato Shlema, sa couche était parfaite, pure, pleine, il n'y a pas eu de rachats qui sont sortis de Yaakov. Donc, le bérou est achevé à Yaakov. C'est clair. Ils sont Kulam Tzadikim. Et alors, ici, vous voyez donc Rashi et les Midrashim ici, Jacob, lui, a le scrupule de se dire peut-être que Dieu va m'interdire, moi aussi, de descendre en galoute. Et c'est pourquoi il offre des sacrifices au dieu de son père Isaac. C'est clair? La fin du verset. Attendez que je vérifie si Rashi cite ça ou si c'est de là. C'est pas cité ici, donc vous le trouvez dans d'autres en tout cas dans le Shla, et vous pouvez trouver la source de ces midrashim. Il y a une question sur le pshat. Pourquoi Dafka subitement Pitom, le texte nous apprend que Beferouj, c'est au dieu de son père Isaac qu'il offre les sacrifices. Il veut avoir une révélation pour savoir s'il a le droit de descendre ou pas. Et vous allez le trouver dans le verset qui suit. Vayomer Elohim le Israël, et Dieu dit à Israël, Bemarot alayla, dans les visions de la nuit. Vayomer, et il dit, Yaakov, Yaakov, Jacob, Jacob, on retrouvera donc notre sujet, Israël, Jacob. Vayomer Ineni, il dit, me voici. Verset 3, Vayomer, Anochi, Ael, Eloke, Abicha, je suis le Dieu qui est le Dieu de ton père, Altira Meredet Mitzrayma, n'aie pas peur de descendre en Égypte. Il est Golgadoy, car à Simer Hacham, je ferai de toi là-bas une grande nation. En d'autres termes, Jacob peut avoir le scrupule, est-ce que j'ai le droit de descendre en Égypte, comme Isaac avait été empêché? Et voilà qu'il se dévoile que l'occurrence est la tentative de Joseph. C'est à travers la tentative de Joseph que je ferai de toi une grande nation, ce que j'avais promis à Abraham. C'est-à-dire, les choses sont telles que ça passe par Joseph. Et donc, comment dire, ici, Jacob a eu la permission de descendre en Égypte. Mais c'est là qu'on apprend que quand Israël descend en Égypte, il s'appelle de nouveau Jacob, tout simplement. C'est clair? Voilà, je relis le verset. Vayomer Elohim le Israël bemarot alayla. Il y a même deux indications dans le verset qui sont importantes. Le Marot Alayla, dans les visions de la nuit. Ça ne veut pas dire que c'était un rêve. C'est-à-dire que cette vision est une vision de la nuit. Et vous savez, vous devez être familier, l'exil c'est la nuit, le retour c'est le jour. Vous vous rappelez de ça? Donc, alors quand Israël descend en Égypte, dans les visions de la nuit, comment Dieu l'appelle? Jacob, Jacob. C'est clair? Alors vous avez cette référence dans À chaque fois qu'il y a une cria, ça c'est un sujet plus général. Vous avez, je m'en souviens, de trois cas, mais je crois qu'il y en a quatre. C'est Abraham, Abraham, Moshe, Moshe, Yaakov, Yaakov, Osmo, Osmo. Okay. Ça, vous pouvez, c'est un sujet pour lui-même. C'est la chambre Hibba, c'est la chambre Kriya. Mais je cherche si il y a sur. En tout cas, vous avez une indication dans Rashi. Prenez Rashi sur le verset 3. Al tira meredet mitraim. Vous avez Rashi sous les yeux. Lefi she'aya meyatzer al sheniskak latzet lechutzalaret. Donc Rashi s'attarde à l'Aïnan. Rashi répond d'une façon globale, mais il désigne bien ce que je viens de faire allusion. Jacob avait un problème d'aller en chutzalaret. Alors Dieu se révèle à lui pour le rassurer, n'aie pas peur de descendre. Et avec une clause très précise qu'on va d'abord lire le verset, verset 4, Anochi et Edimar, moi je descends avec toi, Mitraïm en direction de l'Égypte, vers Anochi et Alcha Gamalo, Alcha ou Alcha. Et moi je te ferai monter. Ve Yosef Yashitiado Alenecha, et Joseph placera sa main sur tes yeux. Ça veut dire, c'est Joseph qui assistera à ta mort. Le cycle Jacob s'achève quand Jacob mourra, en tant que Jacob. Résumer cette introduction, sur ce verset, je vous avais dit deux indications. Okay. D'une part, Israël, descendant en Galoute, s'appelle Jacob. D'autre part, la deuxième indication, là vous l'avez fait dans les commentaires, sur le verset 24, sur le verset 4, je descends avec toi, Melamed. Ça nous apprend que chez Yardou, Israël et Mitzrayim, Yarda, Shekhina, Imaem, que lorsqu'Israël est descendu en Égypte, la Shekhina est descendue avec eux. Alors c'est là-dessus qu'on se base, une des sources principales, pour dire que lorsque Israël est en galoute, la Shekhina est aussi en galoute avec Israël. Avec Israël, et on ajoute habituellement pour protéger Israël. Il y a une nécessité d'une protection supplémentaire quand Israël est en galoute. Parce que la galoute est une dimension dangereuse de l'histoire d'Israël, indépendamment de la hashgacha particulière qu'il y a sur Israël comme Israël, parce qu'Israël a une tâche difficile dans l'histoire de l'humanité. Lorsque Israël descend de plus en galoute, cette difficulté est encore beaucoup plus grande et il faut donc une hashgacha encore supérieure. C'est clair jusque-là? Et vous verrez cet enseignement donné pour la première fois lorsque Jacob sort du pays pour aller dans son exil chez Laban, au début de la parasha de Vayetse, et où Dieu lui donne une promesse absolue et claire de protection particulière jusqu'à ce qu'il le ramène. Je vous cite de mémoire un autre des Midrashim sur ce sujet du péril, du danger particulier de l'exil pour l'histoire d'Israël. C'est que le Midrash dit ceci, que Dieu a proposé à, je crois que je l'ai cité une fois, à Abraham, à Isaac et à Jacob de choisir pour leur descendance ou le Gehinam ou la Galoute. Et que finalement, les Avot ont choisi la Galoute. C'est-à-dire qu'ils ont pensé que c'était quand même différent. Donc, apparemment, on ne voit pas la différence. Celui qui sait qu'est-ce que c'est que la galoute, il n'y a évidemment pas de différence entre Gehinam et Galoute. Qu'est-ce que c'est Gehinam? C'est quand la Neshama n'est pas là où elle devrait être. Qu'est-ce que c'est que la galoute? C'est quand le Nefesh n'est pas là où devrait être. C'est la même chose, à la limite. Est-ce que c'est clair? Et les Avot ont préféré quand même la galoute. Je vous avoue que je n'ai pas trouvé de Midrashim, même si j'ai dû lire, ça doit m'échapper, qui explique cela, qui explique la kavana de ce midrash, c'est-à-dire pourquoi Dieu a demandé au Avot de choisir entre le Guinam et la Galoute. Alors je vais vous proposer une explication, mais notez bien qu'il n'y a pas de source. Si un jour il m'arrive que j'écrive ça, je vous donnerai la source. Alors, je crois qu'on peut l'expliquer de la manière suivante. C'est que si Israël ne joue pas le rôle qu'il doit jouer chez les goïms, alors les goïms tomberont dans le Gehinnom. Et Israël sera obligé d'aller au Gehinnom les rejoindre pour jouer son rôle. Alors il vaut mieux encore que ça soit dans la galoute. Et ceci nous indiquerait que, d'après toutes les indications du texte, que l'époque qui s'ouvre là est une époque Joseph. Ça veut dire que c'est selon la perspective de Joseph, du sens de l'histoire d'Israël, qu'à ce moment-là, il faut tenter la mission d'Israël. Et je reviendrai immédiatement à la définition de cette perspective Joseph, mais je vous donne tout de suite, pour que ce soit plus clair. Joseph, son rêve, c'est de mettre Israël au service de la civilisation extérieure, du temps, pour essayer de sauver l'humanité à travers le Keli, le véhicule de la civilisation Goy du temps. Ça, c'est Joseph. Je vais pousser un peu les choses à la limite. On verra, on saura qu'à la fin de sa vie que Joseph est resté fidèle à son identité hébraïque. Mais jusqu'à ce qu'il se fasse reconnaître de ses frères, qui kamocha kepharo, on peut le prendre pour le pharaon lui-même. Ça va juste là. Okay. Et il y a, comment dire, deux phases. Voilà. De la tentative de Joseph. La tentative de Joseph, c'est la tentative diaspora juive. Et nous verrons rapidement qu'il y a une tentative Joseph qui sort de la première, la diaspora juive, et qui est le christianisme lui-même. J'espère qu'on aura le temps de voir ça encore déjà aujourd'hui, au moins qu'on en ait déjà parlé un peu la dernière fois, je me rappelle. Ken ? Alors ? Non, c'est pas pour rien que dans le mythe chrétien, on va lui donner un père terrestre qui s'appelle Joseph. Et on lui en faire un petit tour en Égypte pour bien l'identifier. Je vais reprendre ça tout à l'heure. Et alors, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut une résistance héroïque d'un Joseph restant juif pour ne pas risquer de devenir chrétien. À l'apparition du christianisme, nous verrons que c'est une tentative du messianisme à la Joseph qui est allée jusqu'au bout. Joseph, le nôtre, Yosef HaTzadik, n'est pas devenu égyptien, alors que le Joseph en question, le fils de Joseph en question, devient romain et fonde la religion, comment il l'appelle, catholique, universelle et romaine. Catholique, ça veut dire universelle d'ailleurs, en catholique. Et ça veut dire que c'est un Joseph qui devient romain. Et je vous citerai de mémoire un texte des évangiles, je suppose que vous n'avez pas ça dans votre bibliothèque, pas le temps de s'occuper de ça, et où les rédacteurs mettre les clés qu'il faut ouvrir pour que la porte s'ouvre, ils disent clairement ce qu'ils ont voulu faire en fondant le christianisme. Les rabbins ont été contre parce que l'histoire de Joseph nous est racontée par la Torah. Il y a des occurrences où il faut la risquer, mais on sait qu'elle aboutit à un échec. Encore une fois, toute la préface historique de la Torah comme loi, comme Torah, c'est pour nous expliquer que la Torah n'est donnée qu'à ceux qui ont compris que l'histoire des Hébreux en Égypte a mené à un échec. Et les 10 commandements commencent par une définition claire. Je suis celui qui vous ai fait sortir d'Égypte, voilà ma Torah. Et ça concerne que ceux qui sont sortis d'Égypte. Seulement, nous savons qu'il y a la clause Jacob. C'est-à-dire, Israël est Israël en sortant d'exil, mais il peut risquer de retourner en exil et il s'appelle Jacob. Alors, s'il est juif, c'est la diaspora juive. Mais s'il n'en a pas la force, c'est ça la forme du christianisme. C'est venu de là, d'une tentative diaspora de type Joseph. Et, alors je vais commencer les choses par là, puisqu'on a parlé de ça, si vous voulez. Aujourd'hui, il y a un problème de savoir. Est-ce que nous sommes dans une situation analogue à ce qui s'est passé au Beit Sheni, où il y avait Babel et Jérusalem. Ce thème-là, Babel-Jérusalem, ça doit vous être familier. Hein. Et on a tendance aujourd'hui à reprendre ce même schéma et de voir dans la diaspora contemporaine un Babel. Et j'ai beaucoup étudié cette question depuis que je connais mieux les communautés de l'étranger, enfin de diaspora. Et il y a des petits îlots dans les communautés de diaspora qui sont Babel, c'est-à-dire juifs à l'étranger, qui refusent Israël, mais qui restent Joseph. Okay. En particulier, regardez les coïncidences du vocabulaire. Mais ça, ce n'est pas une coïncidence, parce que j'ai assisté à l'origine de ces choses-là. Vous connaissez le réseau des yeshivot qui s'appelle Or Joseph, en France. Ça ne vous dit rien, hein? Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Et ne croyez pas que c'est par hasard qu'ils ont choisi ce nom-là. Les Fillon, moi, ils appelaient ça Or-Joseph. C'est Or-Joseph. Comme les institutions Saint-Joseph chez les chrétiens, dont je vous parlerai tout à l'heure. Je reviens au problème. Tout ça, c'est pour expliquer le péril de cette aventure Joseph. Les fondateurs savent ce qu'ils font. Et puis les successeurs, je ne sais pas comment dire, tombent dans le piège. Okay. Et alors en réalité, il me semble que la problématique actuelle vis-à-vis de la diaspora, indépendamment de ces petits îlots de résistance Joseph, c'est plus Babel, c'est Alexandrie. Et c'est la différence entre Babel et Alexandrie. Babel, c'était des juifs à Babel, dans la civilisation babylonienne. Mais ils fonctionnaient en juifs. Est-ce que c'est clair? Ils ne se prenaient pas pour des casdéens. Et puis, il y a eu l'érosion par l'assimilation là-bas aussi. Allez savoir combien d'Irakiens, d'Iraniens, de Suisses, de Syriens et de Libanais sont pas des descendants de ces Bnei Yosef pris par l'érosion de l'assimilation babylonienne. Mais il ne reste pas moins que cette communauté de Babel est restée juive. Et elle a un problème avec Israël. C'est clair? Donc, mais aujourd'hui, combien sont les juifs de diaspora qui fonctionnent en juif? À la rigueur, des juifs du samedi. Et encore, en général, on les appelle les juifs de Kippour, et récemment, on les appelle les juifs des 12 heures pour Israël. Okay? Pas plus. Et c'est touchant, ça fait plaisir. Mais enfin, imaginez le danger. Vous connaissez sûrement mieux que nous, parce que vous venez de là-bas plus récemment et vous connaissez beaucoup de gens, à quel point tous ces juifs sont déjudaïsés et que toute leur force est au service de la civilisation extérieure. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire de l'autre tentative de Joseph qui, historiquement, a commencé avec le christianisme. Ça va jusque-là. Vous savez qu'il y a une blague à Paris. Qui est le véritable rabbin de France? C'est le rabbin de la rue de la Victoire ou l'archevêque de l'église là-bas? Okay. Lequel c'est lequel est métafqué, fonctionne comme Joseph pour la France? Lequel des deux? Joseph. Et je crois que les rabbins français de la génération actuelle sont en train d'entrevoir cela. Ils sont pris d'angoisse et de panique. Et alors ils s'arrangent pour venir prendre leur retraite ici. Au moins qu'eux soient enterrés. Okay. Leur descendance, eh bien, quand ils ont de la chance, il y en a un dans un kibboutz, un dans une yeshiva. Il vient apprendre à dire kadish ici. Mais c'est dramatique, mais c'est comme ça. Et pendant ce temps-là, l'Église se paye le luxe de mettre un archevêque de Paris, futur pape probablement, okay, en béton armé, qui vous dit tranquillement, eh bien, le rabbin aussi, il est juif. Pourquoi pas la France, un pays libéral? Mais si c'est le Joseph, c'est celui qui dit amen en latin, ou, c'est-à-dire en français, ou amen en hébreu. Enfin, dans tous les cas, ni l'un ni l'autre ne s'amène ici. Et alors, et voilà, c'est ce problème-là qui va se découvrir ici. C'est-à-dire, jusqu'au bout, Joseph, Jacob, va dans une angoisse terrible. Qu'est-ce qui peut arriver de Joseph dehors? Et surtout, ne prenez pas Benjamin. Parce que si on prend Benjamin, c'est fini. Il n'y a plus de suite. C'est le Benjamin. En français. Et alors, quand il se dévoile que Joseph s'est dévoilé comme en leur disant « Je suis votre frère et c'est pas pour rien que j'ai fait tout ce que j'ai fait et d'ailleurs, quand l'aventure finira, c'est moi qui ajoute parce qu'elle va échouer, ramener mes ossements au pays. » Alors, ils sont rassurés et puis Jacob entreprend de descendre en Égypte, rejoindre Joseph, mais avec l'espérance d'être au moins enterré au pays des ancêtres. C'est pourquoi un des épisodes les plus importants, les dernières paroles de Jacob à ses enfants, c'est de dire « M'enterrez pas ici ». C'est clair. Et ça annonce à dire « Vous devrez remonter. Vous devrez prendre. » Et une minute, donc, j'oublie après ta question. Vous l'avez au verset 4. « Anochi ered imcha. Je descends avec toi. » En Égypte, Ve'anochi et Elcha Gamalo, mais je te ferai remonter. Et alors, deux choses que je veux dire maintenant sur ce verset. On a l'habitude de dire que quand Israël est en exil, la Shekhinah est en exil pour le protéger, mais on oublie deux choses. C'est que, premièrement, que ça ne peut être que provisoire. Il faut qu'elle remonte, la Shekhinah. Et puis, deuxièmement, ça veut dire que quand Israël est en exil, la Shekhinah est en exil de Shekhinah. Et le monde entier entre dans un temps noir, comme disent les extrêmes orientaux, ça me revient dans leur tradition. Vous connaissez ce vocabulaire, Ken? Bon, disons, dans la nuit, comme dit le Midrash, et les goïm se vengent. Je vais vous l'expliquer très rapidement. Les goïm se vengent en accusant les juifs dans leur langage de déicide, mais dans le nôtre, que la Shrina est en exil. Vous vous rendez compte que pendant 2000 ans, les chrétiens ont dit une chose énorme. Les juifs sont des déicides. Et puis, de notre temps, ils commencent à se rendre compte que c'est une bourde. Et ils ne savent pas comment s'en sortir. Parce que comment rester infaillible après s'être trompé sur l'essentiel pendant 2000 ans? C'est un problème pour le Vatican. Il continue à être infaillible, mais il doit avouer qu'il s'est trompé pendant 2000 ans sur la question du déicide. Et quand est-ce que les chrétiens commencent à se dire peut-être c'est pas comme ça exactement, okay, quand les juifs reviennent à Jérusalem? Je ne sais pas si ça vous frappe ça. À quelle époque les chrétiens commencent à réfléchir sur cette inconséquence de théologique, le peuple est ici, alors ils commencent à essayer de l'hermétiquer, comme on dit, d'aménager cela, d'accord, quand les juifs reviennent à Jérusalem. Bien sûr, c'est pas conscient, c'est pas lucide, ils ne s'en rendent pas compte. Et d'ailleurs, les juges ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent quand ils disent, eh ben, on est tranquille, la Shrina est en exil avec nous. C'est-à-dire que le monde est privé de Shrina, pourquoi? Parce que les juifs sont en exil. Et vous avez compris le lien, bien? J'ai fait allusion en passant très rapidement, mais je vais y revenir. C'est-à-dire, tout se passe comme si l'occurrence de ce shlav, de cette étape de l'histoire, est qu'il est nécessaire qu'Israël se constitue comme nation d'Afka dans la civilisation du temps, et elle est en ce temps-là pas n'importe laquelle. Et alors là, je vais revenir un petit peu en arrière. On ne peut pas ne pas être frappé de ce que la Torah donne une place à l'Égypte et au Pharaon considérable. Même si c'est l'ombre d'une lumière, c'est pas n'importe quoi l'ombre de cette lumière-là. La Torah se révèle, se dévoile, procède de cette civilisation-là. Je ne veux pas dire, je suis mal exprimé, vous avez compris, je ne veux pas dire qu'elle procède de la civilisation égyptienne, mais c'est la civilisation égyptienne de ce temps-là qui était celle du temps où la Torah est donnée à Israël. Donc, et ça, nous avons beaucoup de choses, surtout dans le Zohar, qui indique le Nitzutzak à Kodesh, qui était là-bas. Il y a donc, nous savons que ce sont devenus des tyrans, ce sont devenus des SS, parce que ce que nous avons vécu en Europe avec la Shoah, ça ressemble. Okay? Et peut-être qu'en Égypte, c'est pire. Mais à cette époque, qui y a comme pharaon et chez qui Joseph va pour essayer de transfigurer l'humanité dite civilisée du temps, entre guillemets, par les valeurs hébraïques, et pour ça il se met en parenthèse d'identité hébraïque, c'est une sorte de sacrifice qu'il prend sur lui pour sauver le monde, et intentionnellement j'emploie cette formule, okay? Eh bien, c'est parce qu'il y a un pharaon qui rêve, et ça ne peut pas ne pas nous frapper, la place que ça occupe, c'est en dit identification entre le pharaon et Joseph, comment ils se rencontrent, comment ils font connaissance, parce que c'est un pharaon qui rêve. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire un pharaon qui rêve? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, je suppose que vous connaissez comment commence le livre du Kuzari. Bien? Vous avez étudié cela? Bon. Alors, vous voyez aussi, ce n'est pas une coïncidence. Il y a un roi qui rêve. Et qu'est-ce qu'il rêve? Eh bien, il rêve le pressentiment de l'identité hébraïque, tout simplement. Qu'il y a une volonté qui dirige le monde et que toutes ces idolâtries, c'est destruire. Donc, qu'est-ce que l'ange dit au Kuzari? Il dit, Maasecha, Kavanatra Retsuya, Maasecha Loretsuya. C'est-à-dire, ton intention, ce que tu cherches, c'est cachère, ta conduite, elle n'est pas cachère. Alors, un homme politique de ce temps-là, l'homme politique par excellence de ce temps-là, celui qui mène les destinées de l'humanité, c'est la puissance politique du temps, c'est ce pharaon de Joseph. Et il rêve. Alors ça veut dire qu'il est pré-hébraïque. Il est disons, candidat aux valeurs hébraïques. Le rêve, c'est le 60e de la prophétie. Et dès qu'il entend que quelque part, il y a un Nahar Ivri, un hébreu, qui sait expliquer les rêves, il le convoque et il le met à la tête de l'Égypte. Et pourquoi ? Parce que Joseph a pu donner une explication enfantine des rêves du Pharaon, et que vous croyez que les sorciers du Pharaon, les sages de la cour du Pharaon, il y avait des universités là-bas, ne pouvaient pas penser une explication aussi simple. Elle n'est pas simple parce que Joseph l'a donnée, elle est simple parce que Joseph a expliqué au Pharaon ce qu'il a vu, et pas autre chose. Il a vu un dérèglement dans l'économie égyptienne. Il voit d'abord des vaches grasses, et après des vaches maigres. Et après, il voit des épis gras, et après des épis maigres. Et bien, un enfant de Talmud Torah égyptien aurait expliqué qu'il se passe quelque chose avec l'agriculture. Non. Il faut qu'un hébreu vienne expliquer ça. Alors, je vais vous expliquer, essayer de vous expliquer très rapidement. C'est-à-dire, toute l'économie égyptienne était basée sur les crues du Nil, comme vous savez. Et par conséquent, ça explique d'autre part pourquoi le Midrash nous enseigne que le Nil était la divinité principale. Ils adoraient le Nil. Et c'est une mentalité que le fonctionnement des phénomènes humains dépend de lois cosmiques impersonnelles. En fin de compte, c'était une mentalité païenne astrologique à l'origine, essentiellement. Et que ça ne se détraque pas, parce que les lois sont impersonnelles. Nous disons, les modernes disent « déterminées », les anciens disaient « fatal ». Et alors, l'idée que l'économie peut se dérégler, une fois qu'elle a été réglée sur le cours divin de l'influence astrale sur le Nil, c'est un blasphème. On ne peut pas penser à ça. Mais voilà que le pharaon est prêt à entendre ça. Et dès qu'il entend quelqu'un le lui dire en clair, il lui dit « Après que tu m'as dit ça, il n'y a pas plus Haram Benabon que toi à la tête du trône. » C'est clair, c'est ce qui se passe avec les Juifs dans l'histoire. Chaque fois que dans une civilisation, il y a un espèce de pressentiment de ce genre, vous voyez les Juifs arriver avec des motifs économiques au poste de Premier ministre de la civilisation en question. Tout ça, c'est une ligne Joseph. Est-ce que c'est clair? Non. Et alors, c'est ce que je voulais signaler pour répondre à ta question. L'Égypte de ce temps-là, c'est pas n'importe quoi. Il y a un pharaon qui rêve. Et après, il va y avoir changement. Vous avez au début de chemin, « Vayakom Melech Hadash, Asher Lo Yada'at Yosef ». Ça ne peut pas être plus précis que ça. Et il se levait un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph, qui ne comprenait pas Joseph. Et alors là, ça, c'est le shlav où la présence d'Israël en Égypte devient dangereuse pour Israël. On va détruire Israël. C'est la réaction païenne après la fin de Joseph. Alors, cette tentative Joseph, pour cette première raison, était à faire. Et puis, la deuxième raison nous est indiquée par des versets qui reviennent comme un leitmotiv. Il y avait la famine dans le pays de Canaan. Et il y a la famine dans le pays de Canaan. Reprenez ce thème de la famine dans tout le Tanakh. Et la famine, ce n'est pas seulement la famine du blé, c'est la famine de Dvar Hashem. Et alors, il faut délivrer Dvar Hashem en Égypte. Et relier l'identité de Moïse à l'identité de Joseph. C'est une aventure qui commence avec Joseph, qui s'achève avec Moïse. Or, ils ont la même identité inversée. Joseph, c'est l'hébreu déguisé en égyptien pour se mettre au service de l'Égypte. Moïse, c'est cet hébreu déguisé en égyptien qui enlève le déguisement et qui déclenche la sortie. Et il ne peut quitter l'Égypte que s'il emporte avec lui les ossements de Joseph. Pour boucler la boucle, s'il s'en va d'Égypte sans emporter les ossements de Joseph, ça disqualifie l'aventure de Joseph. Tandis que s'il remporte avec lui les ossements de Joseph, ça la justifie à posteriori. On peut donc reprendre le thème de différentes manières, mais je crois que c'est l'essentiel. On est averti par le texte qu'il faut le faire. En ce temps-là, ça passe par Joseph. J'avais dit une fois de cette manière, si on est au temps de Joseph, c'est Yosef qui est le tzaddik. Si on est au temps de Moïse, c'est Moïse qui est le prophète. Mégouda. Et notre question aujourd'hui, c'est de savoir dans quel temps on est. Dans le temps de Joseph ou dans le temps de Moïse? Et les Juifs de diaspora, j'allais dire pensent, ils ne pensent pas, ils dépensent. D'ailleurs, en fait, le vivent inconsciemment que c'est le temps de Joseph, et les Israéliens vivent que c'est le temps de Moïse. Voilà grosso modo le thème. Okay. Il y a fait. Seulement, ça se passe en ce temps. Parce que les rêves, ça commence avec Jacob. Et on commence par nous raconter que la mission de Joseph, il la voit comme un rêve. Qu'est-ce qu'il rêve? C'est là où je vais arriver d'ailleurs tout à l'heure. Il a deux rêves. Il rêve qu'il y a du blé qui pousse quelque part et qu'il faut faire les germes, mais que la manière de faire les germes, c'est la sienne et pas celle de ses frères. Et que les germes de ses frères s'inclinent devant sa gerbe à lui. Et après, qu'est-ce qu'il va faire en Égypte? Il va y avoir la famine, mais il y aura d'abord l'abondance. On va faire des germes et il faut les mettre à l'abri pour donner à manger à toute la terre. C'est ça qui se passe. Et quand on entend, quand Jacob entend que vraiment on casse le blé en Égypte, il se dit, il trie la Essek. La chose a commencé, il est prêt à entendre, est-ce que Joseph est vivant ou pas? C'est clair. Et le deuxième rêve,